Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute du programme de Studio Tamani, les titres de cette édition. La classe politique a salué la libération de leurs 11 compagnons politiques. Une ouverture au dialogue politique, indiquent des politologues. La nouvelle est également bien accueillie par les populations locales. Elle y voit une volonté de décrispation du climat sociopolitique. Sport football, la deuxième journée de compétition africaine de clubs se joue ce week-end. Le stade malien de Bamako affrontera Desportivo d'Assoul à Luanda, en Angola, alors que le Djoliba AC recevra à Bamako le Pyramide FC d'Égypte. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akil Omeiga. Bonsoir à toutes et à tous. Les 11 leaders politiques ont retrouvé leur liberté ce jeudi 5 décembre 2024 après 5 mois de détention pour atteinte à l'ordre public. Ce geste, selon des politologues, va contribuer à apaiser le climat politique. Des hommes politiques de leur côté se sont réjouis de cette libération de leurs compagnons. Ils estiment que c'est un geste parmi tant d'autres que les autorités devraient poser pour fédérer tous les acteurs sociaux. Mariam Koulibaly.
Madame Si Kadiatousso, une des responsables du collectif des partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024, après avoir salué le geste, soutient qu'il faut donner la chance aux autres détenus d'opinion de se défendre devant la justice afin d'obtenir leur liberté.
Moi, je considère que c'est des détenus d'opinion, quoi, que c'était abusif de les maintenir en prison pendant 5 mois et demi. Cela étant dit, qu'ils recouvrent la liberté aujourd'hui, c'est un motif de satisfaction. Il y a certainement d'autres gestes à faire. En tout cas, personnellement, je pense que tous les détenus d'opinion doivent être libérés.
En libérant ces acteurs politiques, les autorités ont marqué un grand point. C'est l'avis de Dr Ahmadou Touré, politologue.
Notamment, cela va décrypter, veut dire atténuer les tensions sur le paysage politique pour permettre au gouvernement et aux acteurs politiques de discuter et de continuer les consultations en cours. Mais dans tous les cas, ça donne un espoir, ça donne un nouveau coup de souffle, et notamment à tous ceux qui ont des démêlés avec la justice.
À noter que ces personnalités politiques ont été arrêtées lors d'une réunion privée pour trouble à l'ordre public. Leur libération pour l'opinion publique est un signe de l'engagement des autorités de la transition à encourager l'union et la cohésion pour la reconstruction d'un Mali réconcilié.
Cette libération de 11 leaders politiques après plus de 5 mois a été bien appréciée par des Maliens tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Pour des citoyens, cela va permettre de décrypter la situation sociopolitique tendue dans le pays. Des propos recueillis par Alice Issé avec le concours de nos correspondants locaux dans la rubrique On en parle.
Cette libération se trouve en droite ligne de cet esprit qu'on peut se comprendre. Et je félicite le gouvernement pour cette main tendue vers la paix.
C'est une bonne chose pour moi parce que ça va, du moins, ça apaiser la tension.
Je pense que dans les jours à venir, ça sera un Mali courant comme les gens pensent.
C'est un cas qui va vraiment apaiser la situation actuelle du Mali.
Ça va apaiser le climat social. Leur famille sera libre aussi, content.
Selon moi, c'est juste un cadeau empoisonné parce que les cœurs sont déjà blessés.
Aujourd'hui, il faut qu'on tire les leçons parce que je pèse bien mes mots, c'était presque la crème politique qui était derrière les barreaux.
C'est une très bonne chose.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le premier ministre général de division, Abdoulaye Meïga, a rencontré hier les partis politiques. Ce cadre d'échange entre le chef du gouvernement et la classe politique a porté sur la révision des listes électorales, les réformes politiques et institutionnelles et l'organisation des élections. Les leaders des partis politiques ont salué la libération de leurs camarades avant de demander l'élaboration d'un chronogramme électoral le plus rapidement possible. Intella Agbilal.
Le Premier ministre a indiqué lors de cette première prise de contact avec la classe politique et les démarches de la création des conditions d'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel ont déjà commencé. Général de division Abdoulaye Meïga a promis de maintenir le cadre de concertation avec la classe politique.
C'est ensemble que nous ferons le Mali courant. Je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l'inclusivité, la co-construction et la transparence. J'ai rendu une visite à l'autorité indépendante de gestion des élections en vue de lui donner obtenu les orientations du chef de l'État relativement aux conditions d'organisation d'élections transparentes et apaisées.
Au niveau des partis politiques, le président du parti PS, Yélen Koura, Amadou Koïta, a salué la libération de 11 leaders politiques incarcérés depuis 4 mois avant d'inviter le gouvernement à fixer un chronogramme électoral.
Notre souhait le plus absolu, conformément à toutes les constitutions, même à la récente constitution, où la souveraineté n'appartient qu'au peuple, c'est de permettre au peuple malien d'écrire son histoire, qui est de choisir ses futurs dirigeants. De 18 mois, on est allé à 24 mois. De 24 mois, nous y sommes là aujourd'hui. Notre souhait le plus absolu est que, monsieur le Premier ministre, qu'on ait un calendrier clair et précis pour la fin de la transition.
Rappelons qu'au cours de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale a fait le point des listes électorales. Il a ajouté que le Mali compte désormais plus de 8 millions d'électeurs selon le nouveau fichier électoral en cours de révision.
Suite à la rencontre du Premier ministre et les responsables de la société Énergie du Mali, plusieurs propositions ont été faites par les agents d'EDMSA pour une sortie de crise énergétique. Selon Abdoulaye Gibril Diallo, directeur de l'EDMSA, l'ouverture d'un cadre de concertation sur la fourniture d'électricité avec certains pays de la sous-région n'est pas à exclure. Il est au micro de nos correspondants, de nos confrères de l'ORTM.
Résumé des thématiques les plus abordées, renforcer la production énergétique, tirer avantage de l'offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l'EDMSA, les points thématiques portant sur la gouvernance et la communication, élaborer des stratégies à long terme et des actions immédiates pour améliorer la fourniture. Donc sur la thématique renforcer la production énergétique, qui en fait se résume à augmenter l'offre d'énergie électrique, 338 propositions ont été faites qui peuvent se résumer en construire des centrales solaires, promouvoir l'utilisation d'énergie renouvelable par les ménages et les PME-PMI, investir dans l'augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l'offre énergétique, étendre le réseau interconnecté afin d'éteindre les centrales thermiques des centres isolés.
À présent, parlons de sport. La 10e journée des compétitions africaines de club se joue ce week-end. En déplacement le dimanche, le stade malien de Bamako affrontera à 13h Desportivo d'Assoul à Luanda, en Angola, en Coupe CAF. Au même moment, en Ligue de champions africaine, le Djoliba AC recevra à Bamako le Pyramide FC d'Égypte à 16h. Les deux représentants maliens se préparent activement pour une bonne continuité des phases de groupe de ces compétitions. Le point avec Khalifa Goïta.
Après un début de campagne parfait dans la phase des poules en Coupe CAF, l'entraîneur du stade malien de Bamako s'est dit confiant contre Desportivo d'Assoul à Luanda en Angola ce dimanche. Mamtou Kané dit Morlé.
Tout n'est pas rose. On a gagné certes le premier match, mais il y a beaucoup de lacunes qu'il faut corriger. Il faut savoir bien se concentrer. On va la tête sur les épaules. Mais maintenant, les équipes, les enfants, ils veulent jouer et gagner le match. Moi, j'étais tout le temps confiant.
L'entrée a été difficile pour le Djoliba AC dans la phase de groupe de la Ligue des champions africaines. Ce dimanche, face au Pyramide FC, Demba Mamadou Traoré, le coach, reconnaît que ce match à Bamako est important pour l'aventure.
On le prépare avec beaucoup de sérénité. Le premier match est parti, c'est fini. On a perdu, on ne va pas rester assez culpabilisé. On va maintenant regarder vers l'avenir. Les jeunes, je pense qu'ils sont remobilisés, ils sont remontés à bloc. Notre objectif, on veut rêver plus grand et ça va passer par ce match-ci à Bamako pour avoir les 3 points de la rencontre.
A noter que lors de la première journée, le stade malien de Bamako en Coupe CAF avait battu le Stellenbosch FC 2-0. Le Djoliba AC en Ligue des champions africaine a été battue 4-0 par l'Espérance de Tunis.
Direction Gao, au moins 120 déplacés internes de communautés hautes de Gao ont bénéficié ce jeudi 5 décembre 2024 de caprins, de volailles et de matériel d'élevage. L'objectif, selon les donateurs, est de renforcer leur résilience et promouvoir un développement durable. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet REDAM, Résilience et Développement Durable sur la bande agro-pastorale du Mali, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par le programme alimentaire et l'ONG UAV.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la rubrique Retro Actu, Ousmane Niali Bouli revient sur les informations phares de la semaine.
D'abord, sur la rencontre tenue ce jeudi entre le Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga et les partis politiques, les échanges ont porté sur la révision des listes électorales, les réformes politiques et institutionnelles et l'organisation des élections. Dans la foulée, les 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier ont été libérés, une décision saluée par la classe politique malienne. Autre sujet phare de la semaine est la visite rendue à Edem SA par le chef du gouvernement. Lors de cette visite, Dejem Dijar, depuis sa nomination, des recommandations ont été faites par les responsables de la société. Il s'agit entre autres de l'assurance de la viabilité financière de l'EDEM, l'amélioration de la gouvernance et la communication interne de la structure. L'actualité de la semaine, c'est aussi la célébration le 2 décembre dernier, la journée mondiale de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, les défenseurs des droits de l'homme et l'association de lutte contre les pratiques esclavagistes se réjouissent des avancées faites au Mali dans cette lutte. Ils estiment que le phénomène s'affaiblit grâce à l'application des lois incriminant l'esclavage.
Ainsi se referme cette édition, mais avant nous recevons Lala Diahara Touré pour l'introduction de l'émission hebdomadaire Le Club de Tamani. De quoi parle-t-on ce soir, Lala?
Bonsoir Imerana Kilumaiga. Eh bien, ce soir, au Club de Tamani, nous parlons des différents modèles de tresse traditionnels dans le milieu songoui. Et notre invité est M. Amadou Maiga, acteur culturel et organisateur du Festival Songoui et du Festival culturel traditionnel du Mali.
Merci bien à toi et à tes invités. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imerana Kilumaiga.
La Croix-Rouge n'aide que les autres, pensent certains Maliens. Voici la vérité. La Croix-Rouge cherche toujours à aider les plus vulnérables, comme ceux qui ont dû quitter leur localité, qui ont perdu leurs biens, le contact avec leur famille ou qui n'ont plus accès à l'eau potable. Aussi les personnes qui ont été arrêtées. Ici, la plupart du personnel de la Croix-Rouge est malien, comme toi et moi, et travaille directement avec nos communautés.
Le magazine Économie de cette semaine s'intéresse à l'embouche bovine. Cette pratique d'élevage consiste à réduire la mobilité des animaux et permet d'engraisser plus rapidement le bétail. De plus en plus, les éleveurs s'orientent vers cette activité à cause de sa rentabilité et sa rapidité. Ce secteur est-il réglementé? L'activité a-t-elle un apport sur l'économie nationale et locale? Les éleveurs bénéficient-ils de l'accompagnement de l'État? Élément de réponse dans ce magazine Économie réalisé et présenté par Omar Ouigalo.
En achetant quand même des vaches, des taureaux au marché, puis je viens les nourrir 2 à 3 mois, et puis après je les revends. Nous l'associons à mes activités naturelles dans le passé. Nous tirions beaucoup de profit, mais au moment où nous sommes, c'est un peu difficile.
Ceci est un témoignage d'un éleveur à Mopti. Ousmane Diko exerce l'activité depuis des années. Ses propos sont attestés par le président de l'interprofession de la filière bétail et viande, qui met l'accent sur les difficultés du secteur ces dernières années, bien qu'il soit rentable. Mamoudou Ablaye Diallo.
Il y a beaucoup de soucis de sécurité au niveau des marchés, au niveau des corridors d'approvisionnement qui aujourd'hui handicapent non seulement la tenue des marchés, mais aussi l'approvisionnement. Après, la sécurité, c'est le défi même de l'accès à l'aliment. Le prix d'achat coûte énormément cher. Et voilà pourquoi vous voyez qu'à Bamako, on se plaint que le prix de la viande coûte cher. Parce que c'est l'alimentation qui coûte cher.
L'activité de l'embouche bovine est non seulement bénéfique pour les éleveurs, mais aussi pour les bouchers et les vendeurs des aliments bétail. Mamoudou Ablaye Diallo, président de l'interprofession de la filière bétail et viande.
Il y a certains bouchers même qui sont des emboucheurs. Un boucher qui vend un animal en bon embonpoint, bien engraissé, c'est un boucher, je vais dire entre guillemets, un boucher champion et qui attire toute la clientèle vers lui. C'est pourquoi on dit ici, l'élevage nourrit tout le monde. Les vendeurs d'aliments bétail, les producteurs d'aliments bétail, même les vendeurs de cordes et de sons et tous ceux qui sont à côté. Un animal engraissé a toute une chaîne de bénéficiaires derrière.
Le secteur bénéficie-t-il de l'accompagnement de l'État? Oui, répond Ouattara Diakalia, directeur national de production et des industries animales. Selon lui, les aliments bétail sont subventionnés par l'État pour faciliter cette activité lucrative.
Pour promouvoir cette activité lucrative, l'État a structuré à travers les sociétés coopératives. Donc cette structure-là est mise en place à travers nos soins. Chaque année, l'État donne des subventions. L'État prend les 30% et l'embouchure prend les 70%. Bon, chaque année, l'État met à notre disposition 1,5 milliard et réparti entre les trois filières. La filière embouche, la filière lait et la filière avicole.
Pour Dr Lamissa Diakité, économiste, l'activité de l'embouche bovine contribue à 3% au PIB national. L'universitaire avance que le secteur a considérablement augmenté les revenus de la population locale.
Ceci génère beaucoup plus de revenus, ça crée beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est pour cette raison que l'exportation apporte des devises et ça joue beaucoup plus sur la balance commerciale. Elle offre aussi des opportunités économiques pour la catégorie des jeunes, des femmes. Donc, c'est une source de revenus, n'est-ce pas, pour ceci. Mais si on va au niveau national, l'embouche peut varier entre 0,5 et 3 % du produit intérieur brut au niveau national.
Selon les éleveurs, la commercialisation des animaux engraissés est rentable lors des grands événements, notamment les fêtes de Ramadan et Tabaski, entre autres.